Je vais prier pour Philippe. Seigneur mon Dieu, je te remets Philippe. Merci. Merci de l'avoir donné à l'Église et merci pour les dons que tu as mis en lui. Merci pour les choses que tu as faites dans son entendement, les révélations que tu lui as données. Merci pour le fardeau que tu as mis sur son cœur pour aujourd'hui en particulier. Je te demande, Seigneur, que ta parole agisse, qu'au travers de sa bouche, ta parole agisse dans chacun de nos cœurs. Que tu puisses nous donner des paroles qui convainquent nos cœurs, des paroles qui nous transforment. Que ta parole prenne vie en nous. Merci pour la puissance de ta parole. Et je te demande l'onction de ton Saint-Esprit sur Philippe. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu lui as donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Je te demande, Seigneur, qu'il puisse donner ta parole avec assurance, avec détermination. Merci de le protéger, corps, âme et esprit, de renouveler ses pensées. Père, je te remets aussi sa famille. Je te demande aussi la puissance du sang de Jésus-Christ sur sa famille, sur son épouse, sur ses enfants, sur les siens, sur ses proches. Merci de les protéger, de pourvoir à leurs besoins. Merci, Seigneur, de déverser ta vie dans cette famille et qu'ils soient gardés à l'abri de tes ailes et de ton sang. Sois béni, Seigneur, et béni soit ta parole, béni soit ton nom. Amen.
Bonjour, vaillante héroïne. Bonjour, vaillant héros. C'est qui ce matin? C'est une conviction dans son cœur qu'il est un vaillant héros, une vaillante héroïne. S'il y a un ours sensé, je propose, vous pouvez lever la main, ceux qui ont cette conviction. Puis ceux à la maison, la caméra, elle est là. Je propose juste vous allumer votre caméra le temps de montrer qu'il y a vraiment cette conviction d'être un vaillant héros, une vaillante héroïne. Amen, 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 amen. Les autres qui doutent, je ne vous en veux pas. Moi aussi, je doute parfois, surtout quand je me retrouve pour une première fois devant l'Église. On se dit, bon, ben, le vaillant héros, je ne sais pas trop où je l'ai laissé ce matin. Pourtant, c'est vrai que j'ai l'habitude d'en parler devant du monde. Je donne régulièrement des formations et tout. Mais c'est vrai que j'ai quand même toujours le trac. Et je me souviens d'une fois où, respectivement, j'aimerais juste dire merci ce matin de pouvoir avoir un headset. Merci à la Sono pour le travail que vous faites. Je me souviens une fois, c'est vrai que quand on doit tenir son micro et qu'on a un peu le trac, d'un moment, ce micro, qui, je ne sais pas combien il pèse, mais on a l'impression qu'il commence à peser 5, 10, 15 kilos. Après, tu commences à trembler. Puis j'ai l'impression que l'auditoire, je pense qu'ils n'ont compris qu'un mot sur deux, parce que finalement, seulement quand le micro passait devant la bouche, ils m'entendaient. Alors là, avec le headset, en principe, vous devriez tout pouvoir comprendre. Merci à toute l'équipe. Waouh! J'aimerais peut-être juste prier. Oui, Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci parce que tu es notre Rédempteur, tu es notre frère et par ton sacrifice, nous pouvons nous approcher de notre Dieu, de notre Père. Et merci, Papa, pour ton amour pour nous. Merci parce que tu vois en nous des vaillantes héroïnes et des vaillants héros. Amen. Lors de mon premier culte sur Zoom, j'avais parlé déjà d'une notion d'identité. Prenant Abraham qui devenait Abraham et Sarah, où je vois là-dedans, c'est vrai que Dieu a pour les hommes ce désir que nous soyons pères de multitudes. Je crois que Dieu veut faire de grandes choses avec les hommes. Naturellement, il veut aussi faire des grandes choses avec les femmes et là, tout particulièrement, c'est vrai, quand il a nommé Sarah en Sarah, donc de ma princesse à princesse. Je crois vraiment profondément que Dieu veut libérer les femmes de cet esprit de possession, hein, le ma, ou finalement des hommes, ou voilà, notre famille qui veulent nous posséder. Dieu veut vous donner la liberté. J'aimerais continuer aujourd'hui dans cette notion de liberté ou d'identité en prenant l'exemple de Gédéon. Je pense que vous avez déjà fait le rapprochement. Et j'aimerais lire avec vous dans Juges 6, les versets 11 à 34. J'ai pris un grand passage, je me suis dit, parce que si dans le trac je fais un message très court, au moins j'aurais pu remplir avec la lecture. Non, je plaisante. Donc, Juges 6, 11. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit, « Oh, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abat-il sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous sommes livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites, tous ensemble. » Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. » Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et on toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain, puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de Dieu et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel assure la paix ». Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézer. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Ashéra qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Ils se demandèrent les uns aux autres, « Qui a fait cela ?» Alors qu'ils cherchaient à se renseigner, on leur dit que c'était Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Alors ils dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et il mourra, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait à côté. » Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » À partir de ce jour, on surnomma Gédéon Yerubbaal, que Baal se défende, parce qu'on avait dit que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Les Médianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient rassemblèrent leurs troupes et traversèrent leur Jourdain et installèrent leur camp dans la vallée de Jizréel. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon qui se mit à sonner du cor. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Pour placer finalement ce texte dans son contexte, je vous rappelle que une cinquantaine d'années d'avant, il y a donc Barak, accompagné de la prophétesse Déborah, qui va libérer le peuple d'Israël de Yabin, le roi de Canaan. Il est dit donc à la fin du chapitre 5 qu'après cet événement, Israël a connu la paix ou vivait dans la tranquillité. Je peux m'imaginer, ben effectivement, il n'y avait plus de guerre, mais c'était probablement aussi 40 ans où gentiment le peuple de Dieu tombait en déliquescence. Où finalement, ben c'est vrai, il y a eu le miracle de Dieu, on était peut-être tout feu, tout flamme, Puis ensuite, il y avait l'habitude qui s'installait, et puis voilà, on a commencé à construire un hôtel par-ci, par-là, et finalement, gentiment, pendant 40 ans, je m'imagine que le peuple va s'éloigner de Dieu, va entrer en idolâtrie, et puis un jour, ben, Dieu en a assez, et va utiliser les Madianites, avec les Amalécites, et puis les Bédouins d'Orient, pour venir, en quelque sorte, punir le peuple d'Israël, ou au lieu de le punir, peut-être plutôt pour le rappeler de la présence de Dieu. Et pendant 7 ans, chaque année, au moment de la récolte, Madian va venir, va s'installer aux frontières d'Israël et va venir saccager, d'une part, toutes les récoltes, va voler les récoltes, ce qui était tous les animaux. Il est dit que Madian, ne laissait plus de moyens de subsistance en Israël. Et pendant 7 ans, eh ben, à force de ne rien avoir, ben, il y a un appauvrissement de ce pays. Il est même dit que c'est dans cette période-là que le peuple d'Israël a appris à se cacher. C'est vrai, ils se sont plutôt encore éloignés de Dieu au lieu de s'approcher de lui. Ils vont construire des tranchées, ils vont se réfugier dans des cavernes, ils vont construire des fortifications parce qu'effectivement, ils avaient peur de cet ennemi. Et puis au bout de 7 ans, le peuple crie à l'Éternel. Et là, l'Éternel leur envoie d'abord un prophète qui va leur rappeler à la sortie d'Égypte ce qu'il avait fait avec ce peuple, qu'il avait sorti d'Égypte, qui lui avait demandé de ne pas avoir d'autre Dieu que lui, d'avoir Dieu, l'Éternel, comme seul dirigeant du pays. Mais le peuple n'a pas écouté, n'a pas entendu, et se retrouve finalement dans cette situation misérable de par son comportement. Et c'est là que Dieu va intervenir encore une fois de manière miraculeuse avec Gédéon. Mais c'est qui finalement ce Gédéon, ce vaillant héros? Alors ce qu'on sait, c'est qu'il habitait à Ophra, en Manassé. J'ai appris qu'il existait aussi un Ophra à Benjamin. Pas vous confondre, hein, c'est pas si le GPS vous envoie au mauvais endroit, le cas échéant si vous visitez Israël, de bien le paramétrer. Donc Ophra est à peu près au centre d'Israël, alors plutôt au nord d'Israël. On sait que Gédéon, c'était le cadet de Joas. Donc on ne sait pas combien de fils il avait, mais on sait qu'il avait un cadet. C'était ce fameux Gédéon qui faisait partie du clan d'Abiézer, de la tribu de Manassé. On sait aussi que sa famille était pauvre. Alors, je ne sais pas si c'était uniquement à cause du saccage de Madian. On dit souvent qu'il n'était pas courageux, ce Gédéon. Il était bourré de doutes. Il lui faut quand même, hein, donc dans 2 chapitres, il lui faut quand même 4 signes pour se mettre en route. Moi, il m'en faudrait peut-être 5, je ne sais pas. On sait aussi qu'il était super créatif. Il n'était peut-être pas courageux, mais il était malin. Vous imaginez partir en guerre avec des cruches, des torches et des trompettes. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, ça doit être la seule fois où quelqu'un est parti en guerre armé de la sorte. Alors je ne sais pas, c'est parce que peut-être Madian a aussi pris toutes les armes, je ne sais pas. En tout cas, il a été pas mal imaginatif. Puis un élément très important, c'est que Gédéon n'était pas asthmatique. Je vous surprends peut-être, hein, mais c'est vrai que s'il avait été asthmatique, Dieu n'aurait pas pu délivrer le peuple d'Israël. Ben non, il serait mort dans son pressoir. Je vous explique, quand on bat le grain, en règle générale, c'est des grandes places, bien planes. Il y avait beaucoup d'espace, parce que quand on tapait avec le fléau, il fallait au moins éviter de ne pas taper sur notre voisin. Donc c'est vrai, c'était des grands espaces, souvent aussi aérés, parce que ça provoque de la poussière. Donc puisqu'il y avait toutes les écorces du grain qui étaient là, ben, généralement c'est vrai que s'il y avait aussi encore un petit peu de vent, ça permettait ben, justement d'éviter finalement toute cette poussière. Et bien notre ingénieux Gédéon, pour pouvoir protéger sa réserve de Madian, de ne pas se faire toper finalement les grains de riz, ben, il va aller battre son grain dans un pressoir, hein, donc assez fermé. Et en plus de ça, son pressoir, il l'avait mis sous un arbre. Alors là, on dit un chêne, dans d'autres endroits, on parle du symbole maintenant. Mais en fait, c'est un arbre qui a plutôt, qui fait comme un parasol. Donc, l'idée, c'était vraiment, donc il était encore ingénieux, c'était d'éviter finalement de faire de la poussière qui aurait pu attirer l'ennemi en disant « Ah ben là, il y en a un qui bat son grain, allez, on va lui choper son grain ». Ben non, il a retenu finalement la poussière. Mais il devait y avoir une telle poussière là-dedans que justement, s'il était asthmatique, il aurait fait une crise d'asthme et puis il ne serait plus sorti. D'ailleurs, moi, ça me rappelle les fois quand je faisais les foins chez mes oncles et tantes. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore là, ces balles emballées dans les plastiques. Hein, donc, on amenait le foin sec dans la grange et puis il fallait ensuite donc, le mettre sur le tas de foin. Puis je me souviens, c'est vrai qu'il y avait toujours ben, déjà la chaleur de l'été, mais ensuite toute cette poussière. Et je me souviens souvent quand on se mouchait, ben, ça avait une couleur plutôt noirâtre que finalement. Ben, c'est vrai qu'on respirait tout ça. Ou alors on voyait souvent là, sur la seule fenêtre, le seul petit houblot de la grange, on voyait toute cette poussière qui volait. Donc voilà, c'est vrai, moi plus tard j'ai fait des allergies, donc j'ai plus pu faire les foins, alors je sais pas si c'était une bonne chose ou pas, mais c'est vrai que c'était une situation très très difficile. Mais rien que de là, j'ai envie de relever quelques qualités de ce Gédéon. Mais qu'est-ce qu'il était réellement? C'est vrai qu'on le connaît toujours comme le trouillard. Mais finalement, comme j'ai dit, il était malin, ingénieux, créatif, donc déjà c'était pour partir à la guerre. Mais j'aimerais aussi relever une autre chose, c'est qu'à plusieurs endroits, il va sacrifier des animaux. Alors que quelques versets plus tôt dans la Bible, on disait que Madian avait ramassé mais tout le bétail. Donc ça veut dire qu'il a été, lui, sa famille, suffisamment malin pour toujours finalement planquer un ou deux taureaux ou chevreaux pour survivre. Et puis d'ailleurs, un des taureaux avait même 7 ans, hein, donc l'âge... des attaques de Madian. Donc ça veut dire pendant 7 ans, il avait cette ingéniosité finalement de cacher ses animaux pour survivre. Donc Gédéon est aussi quelqu'un de persévérant. Il baissait pas les bras, même si hein, là encore dans son texte, non, il était persévérant. Il cherchait des solutions. Il était attentionné, engagé pour sa famille. Donc c'est vrai que dans cette situation difficile, elle a toujours réfléchi en disant, mais comment est-ce que je peux finalement protéger des ressources pour ma famille, pour faire vivre ma famille, et s'engager donc chaque jour, et même dans des situations très compliquées, hein, dans son fameux pressoir, il le faisait. Donc c'est vrai que moi j'ai aussi envie de dire qu'il était finalement courageux, ce Gédéon, parce que dans l'adversité, il n'a pas baissé les bras, il avançait tant bien que mal. Voilà, donc on est dans une, disons, Gédéon était dans une situation désespérée sociopolitique, hein, donc des ennemis qui rasaient tout. Situation désespérée aussi au niveau personnel, je crois qu'il y avait peut-être une certaine fatigue, un décalage. Et puis c'est dans cette situation que Dieu va le rencontrer et que l'Éternel vient avec un message qui lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors, je ne connais pas ta situation. Je connais un peu notre situation socio-économico-politique actuelle avec cette Covid, ces restrictions, port du masque, etc. Peut-être aussi que pendant cette période, tu as perdu ton emploi, tu as perdu peut-être courage. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Mais est-ce que ce matin, tu peux entendre « L'Éternel est avec toi, vaillante héroïne, et l'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Je ne sais pas comment c'est avec vous, mais j'ai souvent entendu donc des messages autour de ce « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et puis, on m'a souvent dit, ben, tu vois, Dieu, quand il appelle Gédéon vaillant héros, c'est parce qu'il voyait ce qu'il allait faire, ce qu'il va pouvoir faire avec Gédéon. Donc, c'était comme une parole prophétique. Moi, j'ai envie de vous proposer une autre lecture aujourd'hui, parce que quand je lis, c'est au présent. Donc, c'est « L'Éternel est avec toi ». Donc c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il lui dit « vaillant héros ». Donc moi je crois que Dieu lui dit quelque chose dans sa réalité d'aujourd'hui, dans sa réalité actuelle. Et au lieu de le voir comme une parole prophétique, j'ai plutôt envie de le lire comme une proclamation de la, des réalités de Dieu. Et Dieu te dit, aujourd'hui, tu es un vaillant héros. Oui, Gédéon, il lui a pas dit, mais tu sais, tu seras un grand héros quand tu auras battu Madian, hein, avec super-héros, Superman, etc. Tu le seras quand tu auras fait des études bibliques, quand tu auras fait ci, quand tu seras allé au culte tous les dimanches, et puis que. Non, il lui a pas dit tu seras, il a dit tu es. Tu es comme tu es aujourd'hui, tu es un vaillant héros. Parce que Dieu, il connaît celui qu'il a créé, ce Gédéon. Il sait ce qu'il a mis dedans, il sait quelles sont ses forces, ses capacités qu'il a mis en lui. Dieu, il savait de quoi il avait besoin à un moment donné pour délivrer le peuple d'Israël. Et ce qu'il avait besoin, eh bien, il l'a conçu et mis dans Gédéon le jour de sa conception. Et Dieu connaît le potentiel de Gédéon parce qu'il sait comment il a été construit et programmé. Et toi, est-ce que tu sais? Ou toi, est-ce que tu sais ce que Dieu a créé en toi? Ce qu'il a mis en toi, qu'il a besoin de toi pour réaliser ce qu'il veut réaliser avec toi. Est-ce que tu sais que tu es une créature merveilleuse, que tu es enfant de Dieu et que tu es héritier? Ce sont des réalités d'aujourd'hui et du présent. J'aimerais vraiment souligner cette importance du temps présent. C'est vrai que ce matin, Florence, tu parlais de la présence de Dieu. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vrai, la présence de Dieu, ben, quelqu'un est présent quand il est là. Donc c'est pour le moment, et puis ce n'est pas dans le futur. On ne parle pas de la présence de Dieu dans 5 jours. Même si dans 5 jours, je suis persuadé qu'il sera présent, mais il sera présent dans le présent qui sera dans 5 jours. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Hein? Mais Dieu, ce n'est pas... Alors, j'ai envie de dire, Dieu, ce n'est pas le Dieu du futur. Alors oui, il tient le futur dans sa main, mais c'est le Dieu du présent. C'est maintenant, c'est le maintenant qui compte dans notre relation avec Dieu. Et pour souligner cette importance du présent, c'est aussi la deuxième parole que l'ange de l'Éternel ou l'Éternel dira à Gédéon, c'est « va avec la force que tu as et tu sauveras Israël ». Donc c'est seulement là qu'il y a un futur. Donc l'importance du présent, c'est de se mettre en route. On se met en route maintenant, on se met en route aujourd'hui, on se met en route à l'instant. Et c'est parce que je bouge aujourd'hui que je vais pouvoir débloquer le futur. Parce que le futur, il ne peut pas se réaliser si on ne met pas les choses en route aujourd'hui. Dieu, il ne dit pas, ouais, attends ici, Gédéon, pardon, puis je te donnerai ce que tu auras besoin. Ou, puis ensuite tu feras. Non, Dieu lui dit, mets-toi en route. Donc c'est une action qui se passe dans l'immédiat, qui se passe maintenant. Et c'est là que tu réaliseras les grandes choses. Comme je l'ai déjà dit, Dieu est un Dieu du présent. Et j'aimerais, peut-être juste pour l'illustrer, prendre un passage dans Actes 3, les versets 1 à 8. Alors, je ne ferai pas une très grande exégèse sur ce thème, parce qu'il y a eu un culte de Florence il y a quelques temps à ce sujet-là. Donc, dans Actes 3, un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme, c'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean, qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement, il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, Il prit par la main droite, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait et il sautait de joie et louait Dieu. Toute cette histoire, elle se déroule dans le présent. Pierre, il n'a pas dit à cet homme, à cet infirme, bah, « Écoute, reviens demain, puis je verrai ce que je pourrai faire ou peut-être ce que Dieu m'aura dit de faire avec toi. » Il ne lui a pas dit « Écoute, voilà, je ne sais pas trop, il faut déjà que je vérifie, peut-être que je regarde encore ce qui est possible de faire. » Non, Pierre, dans le présent, il prend la main de cet infirme et lui dit « Lève-toi. » Et cet infirme s'est levé et a marché. Ça me fait penser à une situation. Donc, j'ai fait plusieurs week-ends avec le mouvement 4M, donc, qui est un mouvement d'hommes qui organise des week-ends de défis, de confrontations, finalement, où on est en marche pendant plusieurs jours dans les Alpes du Tessin. Et puis, comme il arrive parfois dans ce genre d'événement, il y a eu notamment un des participants qui a eu mal au genou, qui a dû interrompre. Et puis, le dernier jour, le dimanche, c'est vrai, il était là avec ses béquilles au culte. C'était juste avant le culte. Et puis, on était quelques-uns à dire, « Écoute, viens, on va prier pour toi. » Et puis, on prie pour lui, il n'y a rien qui se passe. Puis moi, j'avais profondément la conviction qu'il allait être guéri. Je lui dis, venez, on prie encore une fois. J'ai senti un certain pessimisme en disant, bon, écoute, on a prié, c'est bon. J'ai dit, non, on prie encore une fois, et puis, il n'y a rien qui se passe. Ça m'a quand même travaillé pendant un certain temps en me disant, mais pourtant j'étais sûr que Dieu allait agir. Ou alors, est-ce que tu étais juste un peu dans ton petit trip ou quelque chose, et puis tu étais pseudo, spirituel, et que tu voulais voir des guérisons et tout. Et ça a quand même travaillé jusqu'un jour où Dieu me met vraiment à cœur une grande paix, puis en me disant, mais Philippe, c'est pas toi qui manquais de foi. C'est en fait la personne en face de toi. Et c'est vrai, en réfléchissant, en repensant à son discours, c'est vrai, il disait, ouais, finalement, c'est pas grave, j'aurai une béquille ou des béquilles pendant quelques jours. Et puis je vais guérir, comme on guérit de beaucoup de choses. Donc je pense, je ne l'ai jamais revu, je m'imagine qu'il a été guéri par la force des choses. Mais moi je reste persuadé qu'il aurait pu être guéri quelques jours avant, s'il avait été aussi dans le présent à ce moment-là. Alors j'ai perdu là juste mon texte, mon juge 6, mais je vais, voilà. Alors c'est vrai que vivre dans le présent, on a toujours plein d'excuses pour ne pas le faire. Et Génon, il en avait aussi quelques-unes. Si on regarde tout d'abord au verset 13, il va dire « Oh, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abat-il sur nous? Où sont donc les prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Donc ça c'est une des réactions possibles, c'est déjà d'accuser Dieu. Ah, mais si Dieu existait réellement. Ou bien, Dieu, tu vois ma situation difficile. Si tu es Dieu, franchement, tu pourrais m'éviter tout ça, non? Ou alors, il y a aussi un peu la nostalgie. Ah, c'était mieux avant. À l'époque, quand ce que racontaient les anciens, c'était tellement plus facile d'être chrétien avant que maintenant. Puis à l'époque, quand il y avait le réveil de 1800 tel et tel, de 1900 et tel et tel, mais c'était vraiment mieux d'avant. Mais je crois que finalement, ces excuses, elles sont bien confortables parce qu'elles me permettent de rester dans un certain immobilisme. J'aimerais quelque part les bénédictions de Dieu sans me mouiller. On se dit, allez Dieu, tu ne pourrais pas me donner, hein, c'est un peu la liste de commissions. Alors attention, là je ne dis pas qu'on doit être dans le mérite, hein, de se dire il faut qu'on fasse pour mériter finalement les bénédictions de Dieu, parce que je suis convaincu que nous recevons tout par grâce et uniquement par grâce, qu'on ne peut rien faire par notre mérite. Mais nous devons, dans le présent, saisir cette grâce, parce que si nous ne la saisissons pas, ben, elle va passer à côté. Donc encore une fois, c'est dans le présent, quand Dieu est là, et il est là chaque jour, que je dois saisir ses grâces et ses bénédictions. Une autre excuse de Gédéon, mais je pense que ce n'est pas le seul qui l'a, il va dire, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Ah Dieu, tu sais. Tu sais, j'ai tellement de limites. Je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait d'études bibliques. Je ne sais pas comment faire ci, je ne sais pas comment faire ça, tu sais, je suis un peu nul. D'ailleurs, on m'a toujours dit que j'étais nul. Hein, donc, j'ai comme ça des limites. Des limites que j'ai apprises parce qu'on me les a dites. Puis que j'ai pensé que c'était la réalité, j'ai fait ces limites de moi. Il y a des limites qui sont, ben voilà, je suis trop jeune, je suis trop pauvre pour, je suis trop ci ou pas assez cela. Et puis, c'est vrai qu'il y a un fonctionnement de l'être humain qui est simplement, je ne sais pas si je peux dire magnifique, il est peut-être même plutôt troublant, c'est que, ben, en règle générale, ben, c'est vrai que ces limites qu'on s'impose, eh ben, on les devient d'une certaine manière. On est ou on devient ce qu'on se raconte ou ce qu'on raconte à notre propos. Il y a une étude qui a été faite où des chercheurs en psychologie ont évalué quel était l'état de santé finalement de religieuses donc, qui entraient dans les ordres. Sur la base de leurs témoignages qu'elles donnaient, qu'elles écrivaient au moment où elles allaient entrer dans les ordres. Et on a vu qu'il y avait deux types de langage. Il y avait certaines femmes qui avaient donc un récit qui était finalement assez pessimiste, qui disaient, ben voilà, qui était rempli finalement d'une certaine fatalité. Il y avait celles qui faisait finalement des déclarations d'amour au Seigneur, qui avait un sens dans cette démarche. Et d'après ces études, on a vu que celles qui avaient justement cette vision positive d'elles-mêmes, de sens et d'histoire, avaient eu un meilleur état de santé et ont même eu une espérance de vie plus longue que les autres. Et moi, je trouve ça simplement fabuleux, quelque part, de se dire, mais tu es ou tu deviens ce que tu te racontes à être. Je ne sais plus si j'en avais parlé la première fois ou pas. Moi, je me souviens souvent d'un récit que ma mère a fait souvent lors de repas de famille ou d'autres. Alors, c'est vrai que je suis le cadet d'une fratrie de trois, mais c'est vrai qu'avant nous trois, ma mère a connu deux ou trois fausses couches. Et mes deux frères, ben c'est vrai que ben les premiers mois de leur vie ont été très compliqués, donc ils sont venus vraiment avec des problèmes de santé. Donc c'est vrai que voilà, mes parents ont été vraiment un peu tendus. Ça fait aussi penser un peu à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Et puis ben voilà, moi je suis arrivé sans souci. Hein, donc c'est vrai que ma mère, je sais toujours, elle disait ah ouais, ben Philippe, il arrivait comme une lettre à la poste. D'ailleurs, je suis même venu un jour avant terme. Et puis, ben c'est vrai, quand elle racontait ça quelque part, je me sentais comme fier en me disant « Ah ouais, moi j'étais celui qui ne posait pas de problème. » Puis il m'a fallu un certain temps, puis c'est pas… Ben voilà, j'ai eu 50 ans, mais ça fait que quelques mois. Moi, un jour, j'ai remarqué qu'en fait, ce récit-là, il avait imprimé en moi que je n'osais pas déranger, que je devais passer finalement comme une lettre à la poste. À la poste, pardon. comme un email, je devrais dire aujourd'hui, hein, après scène, feedback. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui me bloquait. Je n'osais pas m'affirmer. Je n'osais pas finalement dire que j'étais peut-être pas d'accord. Parce que voilà, j'étais celui qui ne faisait pas de remous. J'ai envie de dire un peu le petit fantôme, hein, comme ça, qui passe, qu'on ne voit pas. Et que quelque part, c'est un apprentissage pour moi d'enlever ces mensonges. Alors, ma mère ne l'a pas dit dans un esprit de me rabaisser. Hein, je crois que c'était comme elle l'a vécu. Mais c'était aussi moi qui avais finalement entendu un mauvais message. Et ce que j'aimerais envie de te dire, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu te racontes à ton sujet qui tu es, mais c'est de qu'est-ce que Dieu raconte à ton sujet. Parce que c'est Dieu qui va te dire et qui dit la vérité. Encore une fois, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Il sait qu'il a créé en te créant. Et il sait qu'il t'a voulu comme une vaillante héroïne et un vaillant héros. Et Gédéon aussi, avant de devenir finalement le libérateur d'Israël, il a dû faire une première action. C'était quoi cette première action? C'était de détruire l'autel de Baal, on dit l'autel ou le poteau sacré de son père. Donc il a dû détruire les croyances de son père, il a dû détruire les mensonges de son père, de sa famille, de ce qui avait été posé sur lui à tort. Il a dû enlever cela, enlever son histoire d'une certaine manière. Et là, on retrouve aussi la même démarche d'Abraham, qui a dû partir de la maison de son père pour entrer dans sa destinée d'Abraham. Et puis ensuite, il a dû construire un autel pour Dieu, pour l'Éternel, quelque part, m'a proclamé dans sa vie la vérité de Dieu, l'autorité de Dieu, l'identité que Dieu lui donne, l'identité qu'il a en Dieu. Alors c'est vrai qu'il l'a fait de nuit parce qu'il avait peur. Puis c'est souvent ce qu'on retient de lui, en disant « ouais, c'est un trouillard, il ne l'a pas fait de plein jour ». D'ailleurs, quand je lis le message, il n'a pas fallu longtemps aux gens du village pour savoir qu'il l'avait fait. Donc, soit il n'était pas très malin, ça j'ai juste un petit doute, vu, voilà, c'était quelqu'un de très ingénieux. Mais ce que je retiendrai de Gédéon, c'est qu'il l'a fait. Il avait la trouille, mais il l'a fait. Et je crois que c'est ça le héros. Le héros, ce n'est pas celui qui a gagné la guerre, mais c'est celui qui, maintenant, se met en route sur le champ de bataille dans l'espoir de gagner la guerre. Et c'est ce que Gédéon a été. Il a été un vaillant héros parce qu'il était présent quand il devait être présent. J'ai envie de dire, la gloire, elle est venue que beaucoup plus tard. D'ailleurs, elle lui a même porté préjudice à un moment donné. Et ce qui est important, le héros, c'est celui qui se lève, c'est celui qui est là ce matin pour combattre finalement le combat de Dieu. Qui se lève, même s'il a la trouille, même s'il a des doutes, mais qui se lève pour ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il ressent quand Dieu l'appelle à faire quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a Dieu qui me dit de faire certaines choses. Alors moi, ça se manifeste des fois aussi un peu, comment dire ça, émotionnellement. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un de très émotif, c'est peut-être pour ça que je tremble quand je dois parler devant vous. Et c'est vrai que ben voilà, je sens des fois, et puis j'ai l'impression que je suis en train de me battre en disant « non, mais c'est pas Dieu qui parle de blablabla ». Finalement, des fois, c'est simplement de se dire « mais ouais, mais si j'ai mon cœur qui est en train de bouillonner, ben pourquoi aller là contre ? Alors vas-y, fais-le ». C'est pas toujours facile. Des fois, j'évite quand même. Mais je crois que, encore une fois, Dieu est un Dieu du présent. Donc, quand Dieu te dit quelque chose aujourd'hui, Fais-le, vaillant héros, fais-le, vaillante héroïne. Et puis quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est dimanche et puis qu'on est au culte, parce que demain lundi sera aussi un aujourd'hui et un présent. Et dans 3 ans, le mercredi matin sera aussi un présent. Et quand Dieu te parle, ben va avec la force que tu as. Et cette force te permettra de grandir. Voilà, j'aimerais juste conclure en vraiment en t'invitant à dire, mais Dieu est un Dieu du présent. Vis dans le présent, parce que c'est là que tu rencontres Dieu. C'est là que tu le rencontres. J'aimerais aussi t'encourager et proclamer sur ta vie que tu es une vaillante héroïne et que tu es un vaillant héros. C'est l'identité de Dieu. Et personne ne peut t'enlever cela. Et si tu doutes, proclame-le. Je suis un vaillant héros, même si j'ai les genoux qui tremblent, mais je serai là où Dieu veut que je sois. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. On l'attribue à Mark Twain, mais voilà, selon d'autres personnes, ça pourrait être de quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les citations, elles fleurissent de partout. Mais voilà, selon Mark Twain, il avait dit, il ne savait pas que c'était impossible, c'est pour cela qu'ils l'ont réalisé. Donc si tu attends d'être suffisamment fort, d'être suffisamment formé, d'être suffisamment, peut-être tu ne réaliseras jamais cela. Mais souviens-toi que ce que tu te racontes, donc si tu te racontes l'identité de Dieu, que tu fais confiance à ce Dieu de l'impossible, et bien tu réaliseras aussi l'impossible. Donc je t'invite vraiment, chaque jour, chaque instant, d'être dans le présent et de pouvoir finalement vivre ces actes héroïques que Dieu a voulu pour toi. Je vous invite à un moment de silence. Et j'aimerais vraiment t'inviter à ouvrir ton cœur à l'amour de ton Père céleste. Dieu t'aime, Dieu t'appelle son enfant, son fils, sa fille. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit qu'il a un projet pour ta vie. Et c'est un projet de bonheur et de bénédiction, même dans les difficultés. Papa Céleste, je veux te dire merci. Merci parce que ton histoire sur notre vie est une histoire de vérité. Et que c'est une histoire de grandeur, de grandes choses. Alors Seigneur, je veux en ton nom, ce matin, refuser tout mensonge, toute histoire qui me dit que je n'ai pas de valeur, que je suis un mauvais chrétien. Parce que je fais ou je ne fais pas. Et je veux proclamer, Seigneur, sur nos vies, ce matin, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers, et que nous sommes des vaillants héros, des vaillantes héroïnes, à ta disposition. Seigneur, viens construire ce qui a été détruit par des mensonges. Aide-nous à nous souvenir, jour après jour, heure après heure, que nous sommes ces héros que tu as voulu. Amen. Soyez bénis. Le combat commence.
Amen. Merci Philippe. Merci au Seigneur pour sa parole. Un Seigneur d'ici et maintenant. De toute éternité, c'est le Seigneur d'ici et maintenant. Je demanderai à Monique de distribuer la Sainte Cène. C'est dans le passé que le Seigneur est venu sur terre et qui s'est offert en sacrifice. C'est une fois pour toutes qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais avec des effets permanents, avec les effets ici et maintenant, jour après jour.